Cette exposition, est faite à partir de collections prestigieuses du musée du Louvre, notamment une très belle collection d'art cycladique qui forme vraiment un ensemble exceptionnel dans les collections occidentales, et aussi des idoles, une collection d'idoles anatoliennes qui ne sont plus présentées au public depuis très longtemps et qui sont l'occasion donc de les revoir et en plus confrontées aux idoles cycladiques. Donc là, pour la première fois, en plus, on s'intéresse aux échanges culturels dans cette zone qui est le point de contact entre l'Europe et l'Orient, à savoir l'ouest de la Turquie et l'est de la Grèce.
Ce qui est intéressant, c'est de faire ces rapprochements entre les idoles cycladiques qui sont assez connues et les idoles anatoliennes qui le sont moins, mais de pousser aussi la logique plus loin dans le temps, avant comme après. Donc c'était intéressant de montrer des statuettes néolithiques du 7e, du 6e millénaire avant Jésus-Christ, parfois même plus anciennes, pour montrer que l'âge du bronze, ça ne part pas de rien. Il y a d'abord des productions différentes, beaucoup plus en chair, beaucoup plus en forme, mais dont la silhouette sera reprise par la suite sous une forme plus stylisée. Donc, nous avons aussi choisi de remonter un peu dans le temps pour donner une sorte de profondeur de champ au propos. De la même manière, c'était intéressant de regarder la fortune de ces œuvres à l'époque moderne, comment au XIXe siècle on ne les comprend pas, comment on les interprète mal, comment on les trouve laides, repoussantes, affreuses, ridicules. Au XIXe siècle, en plein académisme, quand il faut absolument adorer Raphaël, Michel-Ange, la Vénus Médicis, le Laocoon ou n'importe quelle œuvre classique dite belle, ressemblante, c'est la mimésis. Mais on montre aussi comment au début du XXe siècle, les avant-gardes qui s'intéressent à ce qu'on appelle les arts primitifs, entre guillemets, autrement dit les arts d'Asie du Sud-Est, de Précolombie, d'Afrique, d'Océanie, mais aussi les arts les plus anciens du Moyen-Orient ou du monde égéen, comment ces arts très anciens disent quelque chose d'important. Donc les artistes des avant-gardes du début du XXe siècle, Picasso, Epstein, Brancusi, Henry Moore, s'intéressent à ces formes parce qu'elles sont essentielles. Ils l'écrivent, ils disent, mais pour nous, une statue africaine vaut autant qu'une statue viking, qu'une statuette cycladique. Donc ils retiennent l'idée. Et ils en font quelque chose. Donc ça a provoqué deux phénomènes. Comme ces artistes sont devenus fondamentalement prescripteurs pour le goût de la société moderne, eh bien, leur intérêt pour l'art cycladique a rendu les œuvres cycladiques qu'on trouvait laides et mal faites belles et intéressantes. Vous voyez comment on change un regard. Ces œuvres n'ont pas toujours été admirées. C'est grâce à Picasso qu'on les aime, entre autres. Picasso qui avait une idole violon dans sa collection cycladique. Et d'un autre côté, ces œuvres ont nourri leur art, parfois directement, parfois indirectement. Il y en a qui ont regardé très près, donc on voit très bien le rapport. Il y en a d'autres qui ont gardé l'esprit. Et dans l'exposition, justement, on montre des œuvres de Brancusi, de Giacometti, de Harpe, de Brassailles, pour montrer ces rapports entre un art très ancien de l'âge du bronze, du 3e millénaire avant Jésus-Christ, et l'art du 20e siècle.
Alors dans cette exposition, vous l'avez dit, vous nous faites remonter le temps. On commence le plus ancien, la période, ça commence quand?
Alors en fait, les pièces les plus anciennes de l'exposition datent du 7e millénaire avant Jésus-Christ, enfin fin du 7e, début du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Donc on est autour de 6000, 5500 avant Jésus-Christ. Donc nous sommes au néolithique, le moment où les communautés humaines se sédentarisent, créent leurs premiers villages, se lancent dans l'agriculture et l'élevage, et accompagnant donc cette nouvelle société agraire et sédentaire, eh bien, on a des productions artistiques, et parmi les plus célèbres d'entre elles, ce sont des figurines féminines en argile ou en pierre, plutôt bien en chair, aux formes opulentes, qui évoquent la fécondité, la maternité, et donc sont placées dans la maison, à côté du foyer par exemple, ou même dans des silos à grains parfois, et aussi parfois dans des tombes, qui finalement accompagnent la vie quotidienne de ces communautés. Alors, on y voit le mythe de la déesse mère, mais bien entendu, on est sur des communautés qui n'ont pas encore l'écriture, qui sont pas encore instituées en état, donc on est loin des panthéons de l'Antiquité. Donc il faut pas y voir des divinités, mais certes elles ont un rôle symbolique fort pour la communauté, incontestablement. Mais ça peut être des figures d'ancêtres, des figures protectrices des femmes pendant les accouchements, des esprits protecteurs du foyer, des allégories de la communauté. Enfin, en tout cas, quelque chose qui symboliquement est suffisamment fort pour être représenté. Et ce sont surtout des femmes. Il y a des figurines masculines, mais souvent beaucoup plus schématiques. Les figurines les plus fascinantes sont ces figurines féminines qu'on présente dans l'exposition. On en présente en terre cuite et également en pierre, la plus belle d'entre elles étant cette statuette prêtée par les musées royaux de Bruxelles, un prêt exceptionnel pour l'une des plus belles statuettes néolithiques qui existent encore aujourd'hui.
Et les plus récentes des pièces qui sont, à part les œuvres contemporaines, ça, c'est quand ?
Vers 2000 avant Jésus-Christ.
C'est quoi, 4000 ans d'histoire ?
Voilà, c'est ça.
Et alors là, on ne parle pas de civilisation, mais on parle quoi, d'une culture commune ou c'est juste le point commun, c'est la géographie ?
En fait, ce sont des cultures qui sont voisines, alors certes on parle de centaines de kilomètres, etc., mais qui ont des rapports entre elles, alors plus ou moins épisodiques, mais ce qui fait que certes ces cultures sont identifiables, mais qu'elles partagent quelques traits communs parce qu'elles commercent, et a fortiori surtout à partir de 3000 avant Jésus-Christ, et vraiment la fin donc de notre période entre 3000 et 2000, là se développent des réseaux d'échanges entre les élites naissantes de ces premières villes, de ces premières chefferies importantes, où les élites cherchent à créer des objets de prestige et donc échangent du métal. Et à cette occasion, elles font du commerce. Et donc, accompagnant ce commerce, il y a des échanges culturels parce que on veut copier des objets qui viennent d'arriver, on en voit quand on va là-bas, enfin, et progressivement, donc on a des formes qui se ressemblent parce qu'il y a des échanges, même si le cœur de la culture n'est pas changé pour autant.
On avait parlé d'artistes du XXe siècle que ces pièces avaient inspiré. Pour nous, on peut regarder ça comme des œuvres d'art, des objets d'art. Est-ce que ça en est ?
Ce sont des objets d'art. Pour nous, surtout depuis que les artistes du début du XXe siècle les ont considérés comme tels. Et d'ailleurs, c'est très frappant, les statuettes cycladiques qui sont sur la pointe des pieds et qui ne tiennent pas toutes seules comme ça, on les présente à la verticale dans les musées, alors que les archéologues s'interrogent et on pense que la plupart du temps, elles étaient peut-être tenues à la main ou déposées dans des formes de sanctuaires ou dans les tombes et qu'elles étaient soit dans la main, soit posées à l'horizontale. Vous voyez, aujourd'hui, elles sont devenues des œuvres de contemplation, et pourquoi pas, on a tout à fait le droit de se réjouir de les voir et d'apprécier l'harmonie de leurs formes, la justesse de leurs proportions. Mais un des points de l'exposition, c'est de montrer que ça, c'est notre regard. On a présenté quelques contextes pour rendre sensible le fait qu'elles pouvaient être déposées dans des tombes avec d'autres objets, avec des vases, des céramiques, des objets en métal, des pointes de lance, des lames de rasoir, ce qu'on dépose généralement dans une tombe. Donc ce sont deux versants, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est le contexte archéologique d'un objet, qu'est-ce que c'est que le contexte d'une civilisation. Ça fait partie de notre travail dans les musées d'expliquer ça. Ça n'empêche pas la contemplation. Peut-être la richesse de l'exposition, c'est que comme il y a ce regard des artistes du XXe siècle, c'est assez cohérent, c'est d'autant plus justifié de les représenter ou de les présenter plutôt à la verticale comme des objets de contemplation parce que c'est ce que les artistes ont regardé.
Alors cette exposition, c'est une majorité de pièces qui sont venues du musée du Louvre, hein, pour lequel vous travaillez tous les deux. Il y a aussi des pièces qui viennent d'autres musées en Europe. Est-ce que vous-même, vous avez fait des découvertes à l'occasion du montage de cette exposition, des pièces que vous aviez jamais vues ?
Mais oui. Alors par exemple, en posant des questions au musée de Saint-Germain-en-Laye, où se trouvent les archives d'Olivier Raillé, qui est un archéologue très talentueux du XIXe siècle, qui a offert la tête de Kéros, qui est un des chefs-d'œuvre de l'exposition au musée du Louvre. En posant des questions à ce musée, parce qu'ils ont les archives de cet archéologue, eh bien, on n'y a pas trouvé les brouillons de conférences qu'on cherchait. Nous cherchions des brouillons de conférences qui disaient peut-être ces œuvres sont comme ci ou comme ça. En revanche, nos collègues nous ont signalé un carnet de voyage. Et comme c'était pendant le Covid, eh bien, on a échangé par photo. Et à un moment donné, on a dit, oulala, ça c'est très intéressant. Parce qu'il y avait le premier dessin de la tête de Kéros, griffonné assez précisément, d'ailleurs je ne devrais pas dire griffonné, en 1871-72. C'est le premier témoignage de cette tête qu'Olivier Raillé a acquise dans les Cyclades pour l'offrir au Louvre, et c'est aujourd'hui l'œuvre la plus emblématique de nos collections. Et ça, c'est une parfaite découverte. Mais il y a trois mois, je n'imaginais pas l'existence de ce dessin qui, en plus, apporte toute une série d'indications de précision historiques. Mais avec Vincent, on a regardé, il va vous en parler, des gouaches de Zadkine qu'on ne connaissait pas.
Et effectivement, en fait, c'est en discutant avec les autres musées que on découvre justement ces ces objets auxquels on ne pensait pas, mais qui vont enrichir notre propos. Et les gouaches de Zetkin, ce qui était intéressant, c'était que ça nous permettait, en plus d'évoquer le travail d'un autre artiste, Modigliani, avec qui il était en contact. Nous avons ici des gouaches d'Ossip Zetkin, mais qui sont faites sciemment en pensant à l'art de son ami Modigliani. Et donc, c'est l'occasion, justement, de montrer, finalement, des œuvres peu connues, que les gens ne regardent pas forcément et qui parfois ne sont pas exposées. Ce sont des gouaches, ce sont des œuvres d'art graphique, elles ne sont pas en permanence dans le musée. Et donc l'exposition, c'est toujours l'occasion de redécouvrir ce genre d'œuvres qui permettent de compléter la vue qu'on a d'un artiste ou d'un courant culturel ou d'une civilisation.